de votre rôle, un peu de votre parcours.
Moi, je suis gastro-entérologue de formation. Bon, j'ai été ingénieur avant, mais ça ne veut pas gastro-entérologue de formation. Et j'ai travaillé dans ce cas 30 ans, en gros. Et en plus, j'étais spécialisé en endoscopie interventionnelle. Ce qui fait que ça m'a mis au contact du cancer, matin, midi, soir, tous les jours.
Oui.
Tous les jours. Hein, soit que je faisais en moyenne une douzaine d'examens endoscopiques par jour. C'était des examens de recherche de détection. Et sur ces 12, j'en avais un. Pas toujours. Naissant, ouais. Déjà formé, plus évolué. En plus de cela, dans la province, je recevais en consultation et je suivais les cancers déjà traités.
D'accord.
En voie d'évolution, ou ceux qui déjà traités et ayant eu une issue favorable en matière d'affaires.
D'accord, ouais, ça va.
Avait parfois des récidives. Hein, oui. Le cancer, c'est ça. Bon. Ce qui fait que le cancer, ça a été un bain continuel et c'était absolument passionnant.
Parce que c'est jamais la même chose de toute
façon. Alors
là, c'est toujours des cas particuliers.
Ah, jamais, oui, toujours. Toujours.
Du coup, vous pratiquiez ça où, à l'hôpital?
Hôpital et clinique des Sèvres.
D'accord.
Clinique des Sèvres, c'est moi qui ai créé le département d'endoscopie. En évolution,
et du coup, nous, ce qui nous intéresse un peu, c'est le lien entre l'état psychologique du patient et l'évolution de son cancer, peut-être un peu son apparition déjà rapidement, les facteurs
est-ce qu'il peut y avoir un facteur
qui peuvent déjà déclencher un cancer, avant l'évolution, l'apparition, les facteurs psychologiques qui peuvent le déclencher.
Ça, c'est la question de tous les patients. C'était pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Enfin, mais j'ai rien fait, moi. D'accord. Deuxièmement, la recherche d'une cause. Ça, c'est immédiat. Alors, selon les hommes ou selon les femmes, et les comportements sont différents. Il y a bien sûr l'état du sujet, la personnalité du sujet, en fonction de son enfance, en fonction de son évolution, en fonction de son niveau social. C'est très important. En fonction de ses antécédents. Alors, on recevait, vous savez que les cancers, il y a une courbe quand même. Le cancer, bon, à votre âge, on en a très peu. À mon âge, on en a beaucoup. c'est complètement différent. La courbe d'évolution du cancer, si vous voulez, c'est XY. 20, 30, 40, 50 et plus, et c'est ça, et puis là, voilà, c'est ça, et ça monte terriblement 50, et ensuite ça se maintient en panier. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais, ce constat, alors ça c'est le cancer du sein, qui est de cancer important, c'est un cours du cancer de prostate. Tous les cancers ont une recrudescence à la quarantaine, à la cinquantaine. Et bien sûr que les antécédents du sujet sont très importants. Alors, Nous sommes intéressés à la Ligue de façon très, très pressante. Il faut que je vous raconte. Bon, je travaillais 15 heures par jour. J'étais un passionné de médecine. Pour moi, c'était une passion. Ça n'a pas été l'obligation d'un travail. Mm-hmm. Je vous dis, j'étais ingénieur avant, j'ai tout balancé, puis j'ai recommencé les études de médecine assez tardivement. Et c'était fabuleux. Et je faisais mes visites à 10 heures du soir. Le soir. Les infirmières étaient folles, mais il y avait l'avantage. Il n'y avait plus personne.
Ouais.
Et je pouvais m'asseoir sur le bord du lit du gars ou de la fille. Et ils m'attendaient. Parce que s'ils étaient en clinique ou à l'hôpital, ils allaient ou être opérés le lendemain matin, ou ils venaient d'être opérés et attendaient les résultats.
Ouais.
Et ils étaient dans la place. J'étais dans un endroit indescriptible. Et j'avais remarqué une chose pour nous, et ce que faisaient nombre de médecins, que je ne critique pas du tout, mais c'était l'état de... C'était... Et ils ne m'ont même pas. Bon, on va vous donner 30, ça va être l'isoxyrone. Et on sait que dans un quart d'heure, il ronflera comme un sonneur de cloche, et il n'aura plus d'angoisse. C'était pas ma méthode, je m'asseyais, discuter avec lui. Ça va. C'est une éducation, ça. Et il est vrai que la psychologie n'avait pas du tout été enseignée durant toutes mes études de médecine. Et non. Elle a commencé à apparaître vraiment, et on sait. On entendait quand, hein. Alors nous on l'a potassée, mais en annexe, mais elle ne figurait pas.
Oui, dans les c'était cours. Pas obligatoire.
Elle n'était pas dans les pavés, pas du tout. On parlait pas de psycho. Psycho, inconnu. Et si vous voulez, je me suis rendu compte de l'importance de ce côté psychologique, de ce contact humain, dans ma profession. Et dès que j'ai été nommé ici, il y a 20 ans pile, secrétaire général de la maison, puis après vice-présidente. Et la première mesure que j'ai demandée au conseil d'administration, à mon premier conseil d'administration, c'est la création de la psycho-oncologie. Ça n'a pas été facile.
Ouais.
Parce que, et oui, quand vous dites psycho,
oui, ça fait un peu.
Et bien, c'est mal vécu.
Malade, ouais.
C'est mal vécu, c'est mal ressenti. Et les gens ne comprennent pas l'importance capitale, si vous voulez. Et il a fallu insister, faire part de mon expérience. Et ils m'ont accordé, disons, un vade-mecum au départ, comme ça, mais sous réserve. Et quand. Au bout d'un an, ils ont vu les retours qu'on avait. Ça a été fabuleux. C'était un enthousiasme exceptionnel. Alors j'ai créé en ville la première consultation de psycho-oncologie, onco-cancérologie, du cancer. Je ne sais pas, il y a des maladies chroniques, des cardiaques, il y a un tas de maladies qui nécessitent une psycho. Bon. Je fais pour ce groupe. J'étais très, très réservé là-dessus, très simple. Quand ils ont vu qu'à ma recrute, donc des psycho-oncologues, il n'y en avait pas. Elles étaient des candidatures de psycho, j'en reçois toutes les semaines. Hein. Psycho. Pas psycho-onco.
Mais quelle formation onco, du coup en
onco, il faut une année de stage en service de cancérologie.
D'accord.
J'ai recruté mes filles, celles qui ont été sévères. On a ouvert ici, j'ai eu le succès immédiat. À Bourgoin, on m'a dit, et nous, dans le Nord, on a toutes les aires. On gère toutes les aires. Et nous, à Vienne, on m'a dit, bien. Et puis, à propos voisins près de la frontière suisse, la frontière savoie, J'ai créé quatre centres. Et quatre centres, si vous voulez, en gros, l'année dernière, on a fait 1600 consultations gratuites. Ce sont des consultations d'une heure. Hein. Ce ne sont pas des petites consultations à la sonnette. Ce sont des consultations très longues. Là, il se trouve, je n'ai pas de priori, mais il se trouve que c'était surtout des filles qui sont présentées pour candidates et qui étaient très 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 munies en diplôme. Ce qui fait que je les ai mises à l'épreuve et elles ont fait remarquable. Les retours online, les médias, le signal des coups de téléphone, etc. Elles ont appris à ces malades à voir leur maladie comme s'ils avaient eu la tuberculose, comme s'ils avaient eu une diarrhée. C'est un autre éclairage de la maladie qu'elles ont réussi à donner. Et l'évolution du vécu de cette maladie pendant le traitement, après le traitement, a été complètement différent. Voilà. Alors, l'importance de la psycho sur l'évolution du cancer, elle est majeure, ça c'est sûr. Maintenant, quel est le rapport au point de vue causal? Là, j'ai vu des statistiques américaines, vous les avez certainement lues sur Google ou sur je ne sais quoi.
On a essayé de trier un peu les infos parce que c'est pas toujours très documenté. On essaie de trouver les études en fait qui ont vraiment des chiffres et qui expliquent comment elles ont été faites parce que des fois c'est un peu. On se demande d'où ça sort un peu.
Vous trouvez une étude américaine groupant 800 cas, c'est pas suffisant, hein. C'est pas statistiquement significatif. Il a eu une enfance malheureuse. Qu'est-ce que ça signifie?
Et en fait, c'est le problème, c'est qu'ils expliquent des choses. Par exemple, ils disent... moi, par exemple, j'ai travaillé sur une étude qui disait que, donc en fait, ils prenaient des femmes souffrant toutes d'un cancer du sein, donc ils avaient des critères très très sélectifs, hein. C'était vraiment très défini à la base, il fallait qu'il y ait des métastases, et qu'il y ait, bon, ils excluaient avec d'autres facteurs, ils faisaient des groupes, il y en a un qui suivait un soutien dans des groupes d'expression, et d'autres non, et ils comparaient, et en fait, ils comparaient avec elle remplissait un questionnaire et elles avaient déjà celle de douleur et tout, mais c'est vrai que ça dépend des femmes, de leur habilité à supporter, de leur personnalité à la base et tout, donc c'est pas toujours très comparable entre deux personnes, elles vont pas réagir de la même façon de toute manière.
De toute façon, la personnalité joue terriblement. Une chose que j'ai créée, je le dis, je suis beaucoup repos, mais parce que non seulement on a créé cette discipline d'oncopsychologie pour les malades, mais j'ai ajouté les conjoints et l'environnement du malade. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que presque tous les jours, tous les deux jours, j'étais amené à annoncer au patient ou à la patiente que les résultats d'examen, mon Dieu, étaient un petit peu préoccupants. Je ne disais pas inquiétant, mais il allait falloir faire quelque chose. Pendant qu'il allait se déshabiller dans la salle d'examen, le conjoint ou la conjointe restait et disait quoi? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, entendez bien cette phrase, je crois qu'elle est capitale. Parce que ces gens, ils se préoccupaient de leur sort. Ils étaient sidérés tout de suite. Ils pressentaient que c'était un cancer. Je n'avais pas encore prononcé le mot qu'ils le pressentaient. Et ils pressentaient qu'eux allaient avoir des difficultés considérables, etc. Ils ne citaient pas la préoccupation du malade. Non. Alors, si vous voulez, on s'est dit que, je m'étais dit que s'occuper des malades, comme idéal, c'est évident. Mais il fallait ménager l'environnement. Au fond de son lit, là-bas, éploré, s'il voyait arriver la conjointe et effondré avec les larmes aux yeux, c'était désastreux. S'il avait arrivé, disons, avec un petit sourire et des paroles réconfortantes et un comportement tout à fait. C'était extrêmement positif. Je l'ai fait et ça m'a aidé considérablement. Le résultat sur l'évolution a été très, très, très positif.
Et du coup, vous avez quoi comme type de résultat sur l'évolution, justement?
Ils ont vécu de la maladie complètement différente.
C'est surtout ça, en fait.
C'est ça. Je ne peux pas parler de ce que cette psycho-oncologie a modifié le score. Je ne peux pas. J'avais suffisamment de boulot pour... Là, il faut des statisticiens, etc. Il faut des étudiants qui se consacrent à ça. J'ai laissé, je ne sais combien de... 25 000 dossiers, il y a la matière, mais peut-être qu'il y a des gens qui s'en occupent, hein, dans l'hôpital que la clinique, mais moi je n'ai pas la concrétisation de cette amélioration. La seule chose que je sais, et ça que j'ai contrôlé mille fois, c'est que le comportement, le vécu, c'était vachement fouette. À côté que, alors que dans des chambres à côté, d'autres praticiens avaient opéré d'autres cancers, d'autres origines, gynéco, etc. Dans un hôpital, dans une clinique, vous avez tout. Eh bien, c'était différent. Bon, donc ça, le positif de la psycho, capital. Dire qu'il y a un lien direct entre psy et survenue du cancer, alors ça c'est difficile, ça, ce sont les statistiques dont on parle maintenant, c'est difficile. Moi je sais une chose, si vous voulez, dans ma modeste discipline de gastro-entérologue, c'est que les ulcères d'estomac, j'en avais un tous les jours. C'était des mecs qui avaient des difficultés, c'était des mecs qui étaient stressés, qui étaient nerveux, qui n'en pouvaient plus, qui avaient des milieux familiaux perturbés, des faillites sur le plan financier, sur le plan... l'ulcère, surtout dans les populations. Aussi, là, il y a l'intervention de l'ethnie. L'ethnie est très importante. Hein. Vous avez infiniment plus d'ulcères en Espagne qu'en Suède, hein, ça c'est sûr. Ça, je trouve pas bien sûr. Et si vous voulez, il y a l'ulcère, il y a une maladie par exemple, la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, elle vient quand? On la voit souvent chez des jeunes femmes, souvent avec des crises qui sont majorées quand il y a une rupture. Quand il y a un problème psychologique, quand il y a un truc sentimental. Il y a la rectocolite ulcéro-hémorragique. Lien direct avec l'état nerveux, l'état de préoccupation, etc. Donc ça c'est sûr. Ça, il y a un lien. Ces maladies-là, l'ulcère long, la rectocolite hémorragique prédispose à ça. Peut dire
donc indirectement
une certaine entre guillemets influence
et parce que du coup
de
ça...
la psychologie. Alors je n'ai pas dit dans l'origine, je dis dans l'évolution, ça c'est sûr. Les gens qui venaient en crise hémorragie avec des sanglantes, il fallait voir les intestins, ils étaient tout râpés. Eh bien, ces gens-là, souvent, c'était à la suite d'une difficulté importante, matérielle, psycho, familiale, j'en passe. Donc ça, c'est sûr. De là à aller au cancer, on attend la preuve. On attend que les non-statistiques nous le démontrent. Il n'est pas impossible qu'il y ait une petite influence. Mais n'oubliez pas que maintenant, sur les origines de cancer, on a fait un papillon. On a quand même fait maintenant l'ADN. Et on a fait les nanotechnologies. Alors là, ça, on est rentré dans un nouveau monde. Et je ne connaissais pas. Et maintenant, je reçois des gens, je vois des gens, et on parle de sujets que j'ai perdus après les avoir soignés pendant 1, 2 ou 3 ans, en ayant utilisé tous les protocoles les plus modernes de l'époque, et maintenant, je les ai retirés d'affaires, en fait, un contre mes parents. Voilà. Alors, on est, si vous voulez, on est dans une évolution telle que le concept du cancer qui était réduit au microscope, vous voyez des cellules cancéreuses ou pas, c'est tout. On regardait les noyaux, tout ça, bon, c'est vrai, je faisais de l'âme, 30 minutes, une compression, hop, on savait si ça avait été un ou pas. Ah, maintenant, plus du tout. Maintenant, on passe sur l'analyse ADN. Et c'est complètement différent. Certes, la bonne partie confirme ce qu'on voyait en anapath, mais il y a des notions qui apparaissent et qui nous donnent, et qui nous laissent espérer des possibilités qu'on n'avait pas du tout au point de vue traitement. Donc, je pense que là, il va y avoir certainement dans les 10 ans à venir, et sur l'origine du cancer lui-même, certainement des apports très, très lourds, très, très importants. Psy, pas psy. Voir.
Et est-ce que vous, quand vous voyez des patients, du coup, ben, ils sont tous différents. Est-ce que vous adaptez votre discours ou les traitements éventuellement au...
C'est évident.
Parce que, vous avez peut-être des...
C'est évident.
À force d'expérience, des automatismes. Quelqu'un qui est plus comme ça, on lui parle de cette façon-là.
Non. Vous savez que maintenant, depuis des décennies, on avait les protocoles, les fameux protocoles. Bon, tel cancer, le cancer du en petites cellules, bon, il casse à tous les coups, hein, ça se voit, il peut avoir, il y en a 10%, bien sûr, si vous fumez, bon. Donc, 90% des cancers du poumon sont des cancers, des carcinomes, tout ça, sur lesquels on peut agir par la chimiothérapie, par la radiothérapie, voire par la chirurgie pour enlever la prime de la tumeur en fumée. Les cancers en petites cellules, ça casse. Ça, on sait que dans un an, il ne sera plus là. Ça, c'est sûr. Et ça se voit au simple microscope. C'est des constatations immédiates. Alors, vous avez ces considérations. Rappelez-moi votre question exacte. Attendez.
C'était par rapport aux patients. Si vous adaptiez les thérapies et les discours.
Voilà. Dès lors qu'on avait le diagnostic, on avait naturellement les protocoles qui étaient mis à jour automatiquement, quotidiennement, par les publications de Stanford, par les publications d'Harvard, par les publications de Gustave Roussy, etc. Bon. Et on était toujours, le gars qui rentrait soit à l'hôpital ici, soit dans notre clinique, il avait le traitement qu'il aurait eu à Harvard, à Boston, ça, aucun problème, exactement le même temps. la façon de donner.
Oui, voilà.
La façon. Alors, la Ligue a eu un rôle capital. Là, je crois qu'il faut qu'on revienne en arrière. On en arrive à l'annonce du cancer, le diagnostic d'Azos. Ça, c'est capital. Et c'est là qu'il ne faut pas faire la faute. On avait des gens d'extraction très diverses. Et il est évident que le même cancer de la même importance, de la même nature, ne bénéficiait pas du tout de ma part de la même annonce. Si c'était Madame Intel qui était commerçante et qui avait de grands enfants, qui avait 50 ans, et si c'était la grand-mère de 83 ans. Oui, ça c'est complètement différent. Parce que il y a, quand vous avancez ça, le choc ils sont tous, d'une façon générale. Hein. Le mot de sidération, ça c'est celui qui s'impose. Ils sont sidérés, mais si vous voulez, il y a la façon de présenter la chose. Ensuite, ils arrivent, ils ont dit, bon, il y a un petit problème, vous voyez, il est à cet endroit-là, je leur faisais le dessin. Là, vous voyez, il y a une petite formation là qui est suspecte, je ne leur disais pas que c'était comme ça, qui est suspecte, et qu'il faut absolument le faire. Alors, on va l'enlever, on va vous opérer, on va couper comme ça, après vous ne s'en sortirez pas, vous l'enlevez encore un traitement. Ça va vous faire 8 jours, 10 jours de clinique ou d'hôpital, bon, un petit traitement après, une surveillance, tout se passera bien, etc. Bon, ça, c'était le thème général, mais il était approprié au niveau social, au niveau intellectuel, et bien sûr, quand il s'agissait de l'industriel, que j'ai eu d'ailleurs plusieurs fois, et dont la vie était complètement paralysée par la période qu'il allait entraîner. Alors là, si vous voulez, il fallait aller beaucoup plus finement, beaucoup plus psychologiquement, et l'annoncer de façon, disons, plus précautionneuse. Moyennant quoi, je crois, j'ai passé des heures que j'ai consacrées à annoncer. Et on s'est aperçu que ça, c'était capital. Alors, on a fait les états généraux du cancer à la Ligue, c'était en 2000. On avait réuni 3500 personnes à la Défense, responsable de la Défense contre les états. Et on avait invité Kouchner, qui était ministre de la Santé. Il est venu et les gens avaient droit à prendre le micro et à dire. Monsieur le ministre, comment ça s'est passé? Et vous croyez, c'était samedi soir, on était 13 à table, un exemple. Je me souviens, cet exemple était fabuleux cette fois. On était 13 à table, c'était samedi soir à 9h du soir, mon gynécologue me téléphone en disant, vous savez, madame, c'est un cancer, hein, vous savez, je viens d'avoir les résultats, c'est un cancer, bon, je crois pour 15 jours au ski. Mais vous inquiétez pas, entre 300 et retour, vous verrez, ça ira, vous êtes une bonne soirée, crabe, vous. Deuxième exemple, Kouchner était sidéré. Deuxième exemple, c'est la fille qui dit, ben voilà, je vais faire rentrer dans le service, pendant 2 jours, là je marchais dans le couloir, et puis tout d'un coup je vois le patron, que je n'avais pas vu depuis 2 jours, il avait un tas de dossiers sous le bras, il sort de l'ascenseur, il dit, ah vous savez, c'est un cancer. Donc alors, enfin, je vais rien, vous inquiétez pas, je ne sais pas, on verra la semaine prochaine si on peut. Hein. Et puis, mais je vais vous revoir. Complètement anéanti. Voilà. Malheureusement, on annonce, mais il y en a eu une cinquantaine comme ça. Moyennant quoi, Kouchner qui avait simplement annoncé qu'il venait inaugurer ses états généraux, a pris le micro à 9h et nous a dit, voilà, je demande l'assistance à monsieur le président d'autorisation de passer la journée avec vous. Je suis sidéré d'entendre cela. C'est inadmissible, il faut qu'on joue. Il hérissait, effectivement. C'est un gastro-entérologue que vous connaissez. à 5 heures, on prend un jeu ensemble. Il y avait une interface, 5 heures de la première nuit. Je dis, comment tu vois le problème? Je lui dis, mais tant que tu ne mettras pas un pavé de psycho-oncologie obligatoire dans les études médicales, t'auras rien. Tu as raison, je vais le faire. C'était en avril, je crois, en octobre, dans les programmes, il y avait le pavé psychologique. Ça, c'est très important.
Parce que la manière de présenter, de dire à quelqu'un qu'il a eu un cancer, ça vous avez jamais eu comme cours, enfin, ça vous a jamais été présenté pendant les cours.
J'y viens. Ça, c'est en 2002. C'était la commission Action Climat de la Ligue à Paris, dont j'étais membre. Et nous avons lancé ce qu'on appelle le diagnostic d'annonce. Et le diagnostic d'annonce, maintenant, l'école, l'Institut du cancer, sont des gens pareils, etc. C'est pas du tout. C'est la Ligue qui l'a lancé. C'est la Ligue qui a créé ça. Et on a voulu que le praticien consacre, non pas 2 minutes, disant, bon, voilà, vous avez un cancer, non. On a voulu que doucement, le praticien entre dans notre jeu, prenne son temps, et naturellement, quand, vous savez, une maladie de médecin généraliste, c'est trop difficile. Et c'était souvent eux qui étaient amenés. Pour reçu des résultats transcrits à faire cette annonce. Et il le faisait mal. Il le faisait mal avec la meilleure volonté parce que dans la salle d'attente, il y avait 2 gosses qui chialaient, qui pleuraient, qui allaient, qui faisaient du boucan. Il y avait 5 femmes dont une était très pressée. Il ne pouvait pas consacrer une heure. Alors on a créé la consultation d'annonce qui nécessite. Qui attribue au médecin une heure qui est rétribuée différemment que le temps normal dont il fait état. Et cette consultation d'annonce, maintenant, elle est généralisée à toute la France, si vous voulez. Mais c'est nous qui l'avons lancée, c'est la Ligue qui a lancé cela. Et on est très très contents parce que peu à peu, c'est rentré dans les mœurs. On a encore, je reçois des appels toutes les semaines d'annonces qui n'ont pas été faites dans des conditions optimales, mais bon. D'une façon générale, maintenant, les gens ont pris conscience de l'importance capitale de ce pavé cela et essaient ou pratiquent carrément, vraiment, dans de bonnes conditions, la consultation d'annonces. C'est ça limite le choc majeur que les gens ressentent au début, surtout les femmes. Parce qu'il faut faire un distinguo quand même entre les hommes et les femmes. Les hommes ont un comportement plus rustique, dirais-je. Tandis que les femmes, pour la femme, regardez-le. Il y a 51 000 cancers du sein tous les ans, nouveaux en France. C'est nous qui battons tous nos records avec 71 000 cancers de prostate. Mais la prostate ne se voit pas, parce qu'au cancer du sein, ça atteint la femme et centres de féminité de la femme. Et quand elle voit ça, pour elle, c'est un choc terrible, parce qu'elle pense. Le thème de son schéma, l'idée de son corps. Bon, et puis ensuite, son mari, son compagnon, comment va-t-il l'apercevoir? Est-ce qu'il y aura des traces? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce que sa vie sexuelle sera modifiée ou pas? C'est capital, ça. Ça, c'est vraiment encadré dans le diagnostic d'annonce qu'on doit faire à une femme. Qu'elle ait 35 ans quand c'est du cancer jeune, il y en a relativement peu, mais enfin il y en a relativement peu. Et surtout, et quand il y a des femmes qui atteignent la ménopause, et qui sont extrêmement bien conservés. Moi, j'ai une chef d'entreprise qui avait 50 ans, ménopausée, et à qui il a fallu enlever tout le testament, lui mettre une poche, ad vitam. Tous les jours, elle avait sa poche, la poche. Je vais plus vous parler de ça, mais c'est pas parfait parce que ça colle plus ou moins dans les mouvements, dans les efforts, ça se décolle. Et des odeurs, il y a des fuites. Cette femme qui était chef d'entreprise, on l'a prise en main, on l'a choyée 2 mois après. Elle reprenait 2 fois par semaine son TGV sur Paris. Elle gérait son entreprise comme ça. Elle a obtenu des résultats fabuleux. Elle venait me voir. Elle était chouette. Elle était superbe. Mais tout un travail d'approche, tout un travail de contact, tout un travail de communication. La communication est capitale. Est-ce que ça va pour l'instant ?
Oui, c'est bien.
C'est, vous avez la vie d'un clinicien. Je ne suis pas psychologue.
Ouais.
J'y suis venu après, je fais des études de psychologue. Volontairement, ça m'a été imposé.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était nécessaire du coup ? Vous vous êtes rendu compte de la nécessité ?
Évidemment. Autre question, qu'est-ce que vous avez ?
Eh bien, on a eu pas mal de questions déjà auxquelles vous avez répondu. Du coup, l'observance du traitement par les patients, est-ce que vous pensez qu'elle est plus, le traitement est plus suivi quand le suivi psychologique est meilleur ?
C'est toujours. Là, si vous voulez, c'était un des buts inclus dans mon diagnostic, il fallait obtenir absolument la participation du sujet. Ça, c'est le capital. Et j'ai eu de très 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 bons résultats avec des gens qui se sont investis, mais qui ne prenaient pas ça comme une punition. Pour moi, ils étaient dans le mal, alors on l'avait opéré. Parce que c'était le premier geste, il faut toujours enlever la première voûte que tu as cognitive, toujours. Souvent, après l'opération, radiothérapie. Radiothérapie pour stériliser la partie très proche. Mais, vous n'avez jamais la sécurité, il n'y a pas de métastases qui soient parties et qui soient localisées là ou là. Et qui, dans 6 mois, dans 1 an, vont se comporter comme un cancer indépendant. D'où chimiothérapie. Alors, ça c'était la terreur des femmes. Ça c'est la terreur des femmes, la chimiothérapie, parce que, inévitablement, la chirurgie, non. La radiothérapie, très peu, même si les 79 séances sont imposées, là. La chimiothérapie automatiquement amène un retentissement sur le corps, amène à la régression, amène à une altération du teint, malgré le fond de teint. Vous savez, quand les gens venaient pour la première fois, ils passaient la porte, j'avais pas besoin de savoir, ils n'avaient pas besoin de commencer leur discours, je savais déjà qu'ils étaient en chimio, qu'ils avaient eu des choses. Il y a un teint, la création de petites rides qui est plus précoce, et puis il y a la teinte des cheveux. Ça, c'est la terreur des femmes. Or, actuellement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de données, quand j'étais en pleine activité, c'était la qualité des prothèses. Actuellement, les enfants de ce camp vivent. Et, alors, là aussi, la ligue leur paye ces prothèses. Quand les malades viennent, on leur offre la prothèse, de telle sorte qu'elles conservent leur look. Et ça, c'est 25% de leur composant. c'est fou l'importance. Cher homme, là, on n'a pas ça. L'homme s'en fout. Il sait que ses cheveux vont tomber, qu'il va être caillou-ra, il va avoir la tête de Guillaume Brunet, on lui s'en balance, et il sait que ça repousse après. Ah ben bon. Il a perdu le jeu. Mais la femme ne supporte absolument pas cette atteinte de son intégrité physique. Plus les problèmes sexuels qui sont infiniment variés et qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'échanges pour les aider à surmonter certaines difficultés dont ils parlent difficilement. Et il faut les amener à accoucher sans douleur et doucement. Et ça demande infiniment de psycho, de finesse, pour ne pas les vexer, pour ne pas avoir l'air de les inventorier, de ne pas avoir. Mais on y arrive. J'ai eu des milliers de témoignages qui m'ont dit, bon, sans qu'il travaille, j'étais pas mal perçu.
Est-ce que, du coup, vous avez pratiqué à l'hôpital, à la clinique, et ici, du coup, vous êtes à la Ligue contre le cancer?
Ah oui, attends, je ne pratique plus, pas du tout.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans... Est-ce que les patients sont mieux reçus ici, par exemple, ou maintenant qu'il y a eu les créations de la psycho-oncologie un peu de partout, le suivi des patients est le même, quel que soit l'établissement, quelle que soit la structure?
Très dur. Je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est l'homme, la femme, c'est le médecin.
Ouais, c'est pas le.
Non, c'est...
D'accord.
On peut avoir. Vous pouvez aller à Gustave Roussy ou ce soir, d'éminents spécialistes que je salue. Je connais qui sont remarquables, sur le plan technique, qui sont absolument incollables, sur le plan psychique, il y a une infinité de contacts qui se fait. Je me recevrai, peut-être aurai-je un bon résultat, c'est pas sûr. Je reçois après et ça ne coule pas. Le courant ne passe pas. Ouais. Et vous ne savez pas pourquoi il ne passe pas. Ça, c'est. Bon. On a nos techniques, on a notre habitus et on s'en sert, on arrive à fléchir. Alors, c'est pas toujours le premier contact, hein. C'est des fois la deuxième, la troisième. Alors, après, on arrive à établir le bon terrain et ça se déroule facilement. Question est bonne. Actuellement, il est vrai qu'on a pris conscience de cette importance de la psychologie. Elle est capitale. Comment l'applique-t-il en fonction de madame Intel ou de monsieur Intel? C'est difficile, hein. J'ai vu des petites femmes arriver, là, toutes menues, toutes chétives, avec la cyphose qui touche la. Après la ménopause, bien des femmes qui ne s'entretiennent pas. Et recevoir l'annonce, revenir après, tenir le coup avec nous formidablement, elles ont eu un résultat super. J'ai vu des gars, des guerriers, des gars qui avaient des trois rangées de décoration, qui se sont effondrés, qui n'ont plus lutté, qui n'ont plus voulu lutter. Malgré tout notre engagement, je vous assure, hein, on n'a pas ménagé notre temps. Hein. Samedi, dimanche, ça n'existait pas. Hein. Mmh. Bon. Ça, c'est imprévisible. Mais il est vrai qu'on a vraiment fait des progrès. Et là, on s'en fout. Je me dis en toute objectivité, on a fait de très, très, très gros pas. Ça va beaucoup mieux. Ça n'est pas encore. Il y a encore des gens qui sont secs. Il y a des gens, il y a des chirurgiens qui font l'opération, puis ils passent deux jours après, parce qu'ils savent que le médecin, lui, est là. Il y a un suivi qui dépend beaucoup de professions personnelles de praticien.
Oui, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui interagissent quand même. Et du coup, dans les cas de rémission que vous avez vu, est-ce que vous avez pu observer une différence entre... Ben, du coup, ce que vous avez vu, c'est des patients que vous avez traités, donc ils ont tous été un peu à la même enseigne, mais peut-être que vous savez quand même, avec des patients qui ont été... peut-être ben, pas traité de la même façon. Est-ce que vous pensez que les cas de rémission, ils sont plus, on va dire, qu'il y en a plus dans les personnes qui ont bien vécu la maladie, ou c'est pas quantifié?
On en revient à la première question.
Oui, voilà, c'est ça.
Le lien du psy et du cancer. Je ne sais pas. C'est très difficile. Il est vrai que bien pris en main par un praticien avec lequel il a un très bon contact, le patient a vécu de cette maladie complètement différemment. On finit par avoir des relations qui sont plus qu'amicales. Ah, je vous assure, je reçois des annonces, des lettres, des cadeaux. Maintenant, il y a quelques années, je reçois actuellement encore des cadeaux, des souvenirs, c'est extraordinaire. Ça me bouleverse, ça me touche beaucoup. Parce qu'on a eu un lien qui s'est établi. C'est une visite tous les matins, une visite tous les soirs. Et puis, dès qu'il y a un petit problème, j'arrivais à 9h ou à 3h de l'après-midi, si c'était nécessaire, j'étais là. Ce qui fait que on a créé un climat qui était très favorable, je crois. Maintenant, est-ce qu'il a été optimum pour tout le monde? Ça,
c'est pas possible.
Nul n'aurait la prétention de le dire. Ça, c'est ça. Nul.
D'accord. On n'a plus de questions déjà. Parce que ça a été quand même. Très intéressant.
Ça vous a... Ça rentrait un peu dans votre...
Complètement. C'est un peu... on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est vraiment le sujet qu'on étudie. Quoi. Donc, déjà, au niveau des réponses, on a pas mal d'éléments.
Vous voyez, je ne suis que clinicien. Moi, je suis clinicien. Je plains les disciplines de médecine où il n'y a pas ce que vous aimez. Moi, on ouvre la ventre tous les matins, on ouvre l'estomac, je mettais les mêmes dents. Et il y avait une angoisse et il y avait une peur que j'ai eue et que j'ai très souvent. On faisait des urgences de nuit. Ils envoyaient et coup de téléphone à la clinique, pas moi, j'aimerais qu'on envoie une femme qui s'aime. Le Seigneur, elle arrivait, elle était des fois pas comme l'affiche. Il fallait y aller. 3h du matin, non, c'est dimanche, c'est samedi soir, c'est le soir. On n'a jamais regardé ça. Ça, si vous voulez, c'était éminemment stressant, bien souvent, mais ça a créé, par ailleurs, quand on a fini l'affaire, quand on a eu tiré ce ou cette patiente d'affaire, des liens qui sont extraordinaires. Les gens qui ont fait verre d'eux ensemble n'ont peut-être pas eu ça. Non, c'est très, très, très profond. À Carrefour, je vais au ciné, de temps en temps, il y a une mémé qui vient, qui me saute debout, qui m'embrasse. je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Et elle me raconte que... si vous voulez, ça crée des liens qui sont extraordinaires. Et c'est un peu votre récompense.
Oui, ça montre que... Déjà, eux, ça les a satisfaits. C'était pas du travail pour rien.
Alors, je crois que cet investissement leur a été extrêmement profitable. Moi, je l'ai toujours maintenu, ça, peu importe le nombre de repas où on était 17 hommes à la maison, anniversaire, tout ça, l'autre, on est d'accord. Excusez-moi, je dirais. C'était pas toujours bien vécu. Bon, mais enfin, toujours est-il que, avec les patients, alors, c'est aussi au crédit de la psycho-oncologie, ça.
Ouais.
Je crois.
Mais on va rencontrer, de toute façon, demain, on va rencontrer une psychologue aussi, parce que, ben, comme ça, on a...
On a les deux aspects.
Psychologue ou psycho-oncologue.
Ou psychologue. Une
psychologue qui travaille au service d'oncologie, je crois. Je ne sais pas exactement quoi.
S'il vous plaît, ne faites pas état. ne me citez pas, ne faites pas état.
Bah, on voulait justement. Faut que ce soit. Non, pour nous, c'est deux entretiens différents parce qu'après on confronte et ce serait. Ça nous servira pas d'interférer avec. De faire interférer les deux parce que de toute façon.
C'est vraiment pour avoir plusieurs points.
Voilà, pour avoir les différents. Ben, vous avez du coup un point de vue vachement. Enfin, très.
Favorable.
Ouais, et puis global, parce que du coup, vous avez travaillé aussi le côté psychologique et vous avez le côté clinique, médecine pure, quoi. Et là, on aura peut-être quelque chose dans le côté psychologique d'encore différent, peut-être un peu plus poussé.
Il n'y aura pas le côté clinique.
Voilà, il y aura le côté psycho et.
Ça sera différent.
Et voilà, du coup, ça permettra de confronter les deux.
Pour vous, ce sera, oui. Oui, c'est enrichissant pour vous, sûrement. Donc, écoutez. J'espère que ça, tout cela va bien se passer.
Ah oui, on a de quoi. J'espère que ça se passe bien.
Si, éventuellement, je vous dis ça, mais c'est un titre de curiosité scientifique, si éventuellement, quand vous aurez passé votre thèse, vous m'envoyez un petit exemplaire.
D'accord.
Ah oui, on peut vous envoyer
sans dédicace, parce que c'est toujours un bruit.